qui revient de Tours, du congrès baptiste, qui a dû passer tous les embouteillages, les embûches et tout, mais il est là ce matin. Merci beaucoup avec l'équipe qui a traversé tout ça. Sois béni, Paul. Merci pour le message.
Merci beaucoup. Je crois que le Seigneur nous a déjà bien édifiés ce matin. Alors, est-ce bien nécessaire encore de prendre la parole? Est-ce que vous voulez encore en recevoir? Merci beaucoup à nos amis et frères des Gédéon. Je suis très touché par ce ministère. Je dois vous dire que je suis le fils d'un militaire, de regrettée mémoire, et qui avait toujours ce petit bleu dans la poche supérieure de son camouflet au Cameroun. Mon papa était attaché à l'écriture. Alors il nous la lisait tous les matins. C'est une grande bénédiction. Je confesse qu'il m'a battu, même moi qui suis pasteur. Il m'a défié. Je n'ai pas pu relever avec la même fidélité.
Maintenant, pour les militaires, on a avec le...
Est-ce que tu peux me le donner en mémoire de...
En camouflet comme ça.
Est-ce que tu peux me le donner en souvenir de...
Ah, les pasteurs, oui.
Demandez. Non, parce que pour dire vrai, je ne l'ai plus reçu entre les mains depuis très très longtemps. Il avait là. Oui, mais je... Voilà. C'est des souvenirs d'enfance.
Il y a quelqu'un qui va payer ce matin dans son offrande.
Voilà. Oui, parce qu'effectivement, la parole de Dieu a un coup d'impression, etc., etc. Ce matin, j'aimerais nous parler de la communauté et du bonheur du royaume de Dieu. Voilà un sujet que nous, en fait, qui m'est cher. Et alors que nous parlons depuis quelques semaines dans la série de nos prédications du royaume de Dieu, j'aimerais véritablement ce matin dire combien la perspective du royaume est un sujet de joie, est un sujet de bonheur. Et que marcher en chrétien en ce monde n'est pas une sinécure, mais un privilège. Il y a quelques années, un auteur-compositeur français, Christophe Maillet, a composé cette chanson. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Et il nous raconte sa quête du bonheur d'une certaine façon, parce que le bonheur est un questionnement existentiel. Il nous raconte un peu à la manière de l'Ecclésiaste, là où il a cherché le bonheur. Pardon, ce sont ces mots, il dit, j'ai fait l'amour, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et puis je suis rentré chez moi et j'étais tout seul dans mon bain. Il est où le bonheur? Je suis sorti, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et puis je suis rentré tout seul et je pensais à ces soirs de Noël où nos rêves de bonheur se heurtent à la réalité parfois compliquée des familles, des absences, de ce qui nous manque, mais de ce qui ne va pas bien aussi. Il est où le bonheur? Il est où? Et face à ce questionnement existentiel, les philosophes nous ont proposé deux ou trois voies. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, le temps nous manquerait, mais surtout la compétence me manquerait. Alors, je restitue ici rapidement trois courants autour de cette quête existentielle. Il y a d'abord le courant des optimistes. Ceux qui veulent bien croire un bonheur accessible à l'être humain. Il est où le bonheur? Il est où? Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, cours-y vite! Et il a filé. Ça donne des émissions, l'amour est dans le pré. Le bonheur est dans le pré. Les optimistes veulent croire que le bonheur est accessible et possible. De génération en génération, j'ai lu que Rousseau pouvait être classé du côté des optimistes. Il est allé jusqu'à penser que l'homme naît heureux et bon, mais que c'était la société qui le rendait malheureux et mauvais. Il est où le bonheur? Il est où? Il y a le courant des pessimistes, pour eux, le bonheur reste une illusion. Le bonheur n'est jamais accessible. Et j'ai lu également, sous la plume de Samuel Benetro, de regretté mémoire, professeur émérite de théologie, spécialiste du Nouveau Testament, j'ai eu la grâce d'être à ses pieds pour être enseigné. Et il a écrit un magnifique livre, hein, je lui dois beaucoup d'ailleurs ce matin, « Bonheur des hommes et bonheur de Dieu ». Et il rappelait ce proverbe dont les origines, semble-t-il, sont arabes. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes de cette culture qui pourraient peut-être reconnaître ici cet adage, cette maxime. Il y a deux sortes de gens, ceux qui pensent être heureux et ne le sont pas, et ceux qui cherchent le bonheur sans le trouver. Ah ben oui, bien, moi aussi, hein, j'ai réagi comme ça, je me suis dit, ben c'est dommage quand même. Moi, je ne sais pas comment ils font les pessimistes, hein. Alors, vous avez des pessimistes philosophes contemporains, modernes, hein, des grands pontes, hein, qu'on lit beaucoup, André Comte-Sponville, hein, etc. Non, donc, qui sont fondamentalement matérialistes athées et qui disent que les religions proposent en quelque sorte une illusion, un bonheur illusoire. Que le bonheur, c'est d'accepter finalement ce matérialisme déterministe, notre réalité. On est là, le monde nous échappe, le sens profond de pourquoi on est là nous échappe. On n'a qu'à accueillir les petites joies passagères, vivre, mourir, et puis ben c'est tout. Moi, je ne vis pas pour ça. Vous êtes prêts à embarquer pour ça, vous? Heureusement qu'il y a Pascal qui nous a proposé un pari. Autre philosophe. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Et point le Dieu des philosophes. Dans cette nuit de feu qu'il a vécue. Et il a dit, ma raison est pour Dieu. Dans ce baptême de l'esprit qu'il a reçu. Et il a compris qu'il y avait une autre alternative. Le troisième courant, c'est un courant qui cherche justement à dépasser l'antagonisme de ces deux options extrêmes. D'un côté, un bonheur qui serait facile d'accès, et de l'autre côté, un bonheur qui ne serait qu'illusoire. On peut les classer dans le camp de ceux qui essayent de proposer une synthèse, on peut les appeler les modérés, ou les penseurs de la dualité du bonheur. Vous savez, c'est comme quand vous avez une pièce de monnaie et vous ne pouvez pas choisir entre face et pile. Ça, c'est la même monnaie, en quelque sorte. Il faut la penser avec ces deux dimensions. Et donc ici, on dira, avec La Rochefoucauld, on n'est jamais si malheureux qu'on le croit, ni si heureux qu'on avait espéré. On n'est jamais si malheureux qu'on le croit, ni si heureux qu'on l'avait espéré. Tension, dualité, il est où le bonheur? Il est où? Et cette question du bonheur, elle est universelle, et elle est enracinée dans la mémoire des âges. Au psaume chapitre 4, par exemple, nous avons cette question. Beaucoup se demandent, qui nous fera voir le bonheur? Je ne sais pas si on a cette slide. Voilà. Qui nous fera voir le bonheur? Dit le psaume 4, versets 7 à 9. Qui nous fera voir le bonheur? Vous êtes déjà posé cette question? Nos contemporains se la posent. Au fond de ton cœur, au fond de mon cœur, au fond de chaque cœur, surgit cette question. Peut-être étouffée pour ne pas souffrir. Mais elle est là. Est-ce que tu es fait pour le bonheur? Est-ce que je suis fait pour le bonheur? Est-ce que nous sommes faits pour le bonheur? Mais qui nous fera trouver le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Alors à la fin de son chant, il dit, il est là le bonheur, il est là. Et puis je me suis demandé, mais il est là où? Et je pense qu'il suggère qu'il est là dans le temps présent. Parce que voyez-vous, dans une de ses strophes, il dit ceci, c'est une bougie le bonheur. Vous n'êtes pas obligé d'être tout à fait d'accord. Et je ne vous les cite pas parce que je suis complètement d'accord. Je vous les cite parce que nous sommes en dialogue avec la culture. Et avec les questionnements existentiels de notre temps, mais de tous les temps d'ailleurs. C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On veut le bonheur, oui on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais fais pas de bruit le bonheur. Non, fais pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est quand le bonheur? Ouais, c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Est-ce que vous n'avez jamais vécu ça? Est-ce que vous n'avez jamais ressenti ça? En amour par exemple? Dans une amitié, par exemple, en se disant, c'est quand j'ai laissé filer l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Excusez-moi de reprendre les termes d'un compositeur. Je sais que ce n'est pas très chrétien de dire C-O-N, mais voilà, soyez compatissants. Vous êtes bien compatissants? Vous avez compris, hein? C'est pas C-O-N, c'est C-O-M, ça change tout, le début. C'est comme une bougie. Et ici, c'est une autre philosophie qui nous est proposée. Je connais très bien ça dans la culture d'où vient mon épouse. Chérie, tu es là? Ou tu es avec les enfants ce matin? Que Dieu la bénisse aussi là-bas, avec tous les moniteurs et tous ceux qui s'occupent de nos enfants. Là-bas, à l'ouest, on dit, faut pas faire le bruit, parce que le bonheur, c'est comme un papillon. Si tu veux l'attraper, vaut mieux arriver discrètement sur la pointe des pieds pour peut-être l'attraper. Je ne vous conseille pas de le faire, laissez-les voler, les papillons, ils sont si fragiles, et puis leurs ailes, hein, soit la peine de les attraper, on peut les contempler sans les toucher. En fait, c'est l'adage français. Vivons pour être heureux. Vivons cachés pour être heureux. Où vous cachez-vous, vous? Où cachez-vous votre bonheur? Alors chez moi, si vous allez au Cameroun, vous allez voir les gens qui veulent vivre cachés pour être heureux. Ils construisent une grosse baraque comme ça. Mais c'est vrai, hein, c'est au Cameroun, je vous le dis. Tous ceux qui sont allés au Cameroun ou dans, je sais pas, dans d'autres pays africains, construisent une baraque comme ça, construit tout. Et puis ils font un mur de 6 mètres. Donc quand ils sortent, ils voient le mur. Parce que vivons cachés pour être heureux. Parce qu'il ne faut pas que l'autre sache que je suis riche. Il ne faut pas que l'autre voit ma baraque cossue. Ce n'est pas que pour les voleurs qui font ça. Ça m'a intrigué parce que je m'étais dit, mais au début, je pensais que c'est pour l'insécurité parce que je trouvais qu'en Europe, il y a. Moi, j'habite à Bouillard, dans une petite commune, un petit lotissement, où les barrières se sont grillagées presque. Hein. On voit très bien la maison de l'autre. Puis je me disais, mais pourquoi ici on met des murs En fait, c'est des senzala, quoi. C'est des prisons, mais enfin, dorées. Peut-être que vous êtes. Pas comme ça. Peut-être que vous n'avez pas une grosse baraque cossue, peut-être que vous n'avez pas une grande barrière, peut-être que vous l'avez, mais que vous n'êtes toujours pas comme ça, parce que tout ça, je ne veux rien induire. Mais qu'au fond, vous avez adhéré peut-être à cette idée qu'il faut vivre un peu caché pour être heureux. Il ne faut pas se dévoiler, il ne faut pas dire ce qu'on a, il ne faut pas dire à quoi on aspire. Et que quand vous avez trouvé votre petit bonheur, il faut surtout le déguster silencieusement, tout seul, en solo, tout seul. Chut. À bas bruit, le bonheur, quand on fait le bruit, il s'en va. J'aimerais nous suggérer une autre piste ce matin, à l'écoute de la parole du Christ. Alors je sais, je m'amène Fanny, que je remercie, qui me suit à la vidéoprojection sans avoir mon plan sous les yeux. On va revenir au début de mes slides avec le texte de l'Écriture. Pour essayer de comprendre le bonheur tel que Jésus nous le propose dans ce passage de Matthieu chapitre 5, les versets 1 à 12. Nous lisons la parole de Dieu. Tout ce que j'ai dit, moi, est critiquable. Appelle votre réflexion. Mais là, nous lisons le texte biblique, écoutons-le avec attention. Lui, il est la norme, l'autorité. Merci Seigneur pour ta parole. Quand Jésus vit les foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui. Il prit la parole et leur donna cet enseignement. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute et quand on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Fanny, suis-moi avec la slide, la communauté du royaume, faire foule ou devenir disciple. J'ai intitulé ce message « La communauté et le bonheur du royaume ». Il faut donc que j'explique pourquoi je lis « communauté et bonheur ». Cela nous amène à nous poser la question, pour l'intelligence de notre texte, à qui s'adresse Jésus ? Et pour cela, nous devons nous arrêter d'abord aux deux premiers versets de ce chapitre 5. Je rappelle que c'est le premier discours que Matthieu nous propose dans son évangile et qui introduit ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, qui introduit cette grande première section des chapitres 5 au chapitre 7. Là où Jésus donne plusieurs enseignements que Matthieu a rassemblés ici pour former cet ensemble qu'on appelle le premier discours dans l'évangile de Matthieu. Et ici, nous voyons au verset 1 et 2 que Jésus vit, on a beaucoup parlé de voir ce matin dans la louange, ouvre mes yeux, nous voulons voir Jésus, mais Jésus nous voit aussi. Il voit les foules, il monte sur une montagne, il s'assied et ses disciples viennent à lui, auprès de lui. Viennent à lui, auprès de lui. Et Jésus prit la parole et leur donna cet enseignement. Alors on s'est demandé, mais à qui Jésus adresse sa parole ? Parle-t-il exclusivement aux disciples ? Ou parle-t-il aux foules ? Ou parle-t-il aux foules et aux disciples ? On ne peut pas totalement exclure la foule. Parce que si l'on n'oublie pas que le sermon sur la montagne introduit une série d'enseignements qui se termine au chapitre 7, alors on n'exclut pas la foule. Parce qu'à la fin du chapitre 7, au verset 28 à 29, la conclusion de ce grand premier discours, Matthieu écrit, « Quand Jésus eut achevé ses instructions, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait avec autorité et non pas comme leurs scribes. » J'aimerais développer ici trois idées rapidement. Faire foule, rester foule ou devenir disciple. Fou. Oui, on peut dire ça aussi. Ils sont fous, les disciples de Jésus, parfois. Faire foule ou devenir disciple. Il me semble que nous pouvons écouter l'enseignement de Jésus, les paroles de Jésus. Fréquenter l'église du Christ, la servir même, se mettre à son service, mais y rester comme une personne anonyme, sans visage, sans sentiment, sans réalité incarnée en quelque sorte, dans la masse de la foule. Jésus parlait, il est vrai, aux foules, mais sa parole avait toujours pour horizon chaque individu, chacun pour qui il est, pour qui elle est. Il me semble que même si on n'exclut pas les foules, Jésus n'est pas juste en train de parler au-dessus de la tête d'une masse. Il vise le cœur. Il vise le cœur de chacun. Parce qu'il est venu révéler le royaume du Père. Un royaume qui va répondre à cette question existentielle. Il est où le bonheur ? Il est où ? Il va parler de ce bonheur à tous, parce que la quête, elle est universelle. La quête, elle est existentielle. Tous se posent cette question, mais qui nous fera voir le bonheur ? Il parle à tous. Mais seulement quelques-uns, ceux qui vont entrer dans la communauté de ses disciples, découvriront alors que lui, Jésus, il est, en sa personne et par son enseignement, la porte d'accès au bonheur selon Dieu, selon lui-même le Christ. Le deuxième point, donc, c'est nous inviter à ne pas rester l'homme, la femme, le jeune, la jeune de la foule, mais à dire peut-être comme on l'a entendu dans le témoignage de Maggie Blanchard, Jésus, j'aimerais être ton disciple. Parce que Jésus nous invite encore aujourd'hui à rejoindre la communauté de ses disciples. Devenir disciple de Jésus, ce n'est pas l'affaire d'une élite spirituelle. Au chapitre 4, Jésus a choisi ses premiers disciples. Dans Matthieu chapitre 4, il appelle des frères à le suivre ensemble. Il appelle Simon, André, son frère. Il appelle Jean et Jacques, son frère. Quelle joie de marcher ensemble. Pas seulement comme frères et sœurs, frères ou sœurs, dans la chair, dans le sang, mais en Christ. Mais quel défi aussi. Quel défi aussi. Et la Bible est remplie d'histoires où la fraternité est heurtée, où la fraternité est blessée, autour même de Jésus. Alors je nous interpelle à voir ici un appel à une fraternité autour de Jésus qui ne soit pas une fraternité brisée, une fraternité blessée, mais une fraternité de réconciliation autour du Christ, une fraternité qui s'engage à ne jamais être immédiate, mais entre toi, mon frère et moi, entre toi, ma sœur et moi, il y a le Christ. Et c'est pour ça que cette fraternité a de l'espérance. Et nous sommes frères et sœurs en Église. Et nous voulons marcher en disciples du Christ en Église. Et nous voulons vivre ce bonheur d'être frères et sœurs en Christ. Et nous voulons vivre cette parole exigeante et déroutante du Christ en même temps. Et parfois ça blesse, et parfois ça fait mal. Bonheur, heure augurée. Bonne, en quelque sorte, bonne chance, mais c'est plus que ça ici. Et parfois le heure, on y ajoute un T, ça devient bonheur. Alors si c'est un bonheur, donc ça heurte pour le bien, pour le bon, alors que le bon advienne. Mais je crains que parfois ce n'est pas un bonheur, mais un malheur. Ça heurte et ça fait mal. Ça fait mal de vivre sans toi. Mais ça, c'est un autre chant. Mais tu peux le dire pour Jésus, ça fait mal de vivre sans toi. Hein? Ah, mais lui, il est très bon. Vous savez les blagues qu'on fait, trois majeurs, une mineure, et ça passe. Pas creuser à côté quand on a trouvé le filon. Devenu disciple de Jésus, ce n'est donc pas l'affaire d'une élite spirituelle. Ce n'est pas l'affaire des gens qui ont tout réglé. Quand on regarde ses disciples, ça nous rassure d'une certaine façon. Regardez le caractère de Pierre, intempestif, capable de vous donner une parole, vous vous dites, oui, là, je peux compter sur lui. Et dès la première difficulté, il vous dit, non, Seigneur, on n'y va pas. Là, tu ne vas pas aller au casse-pipe. Hein? Arrière de moi, Satan. Et pourtant, le même Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et il dit, cette parole t'a été révélé par mon Père. Nous sommes dans cette ambivalence dans la marche avec le Christ. C'était des hommes du peuple, c'était des pêcheurs, ils avaient leur filet comme travail. Lévi Matthieu était un collecteur d'impôts, un collabo comme on pourrait dire à son époque. Mais Jésus ne les a pas regardés comme la société les regardait. Et croyez-moi, Jésus, quand il nous regarde, il ne nous regarde pas ce matin comme les autres nous regardent. Les autres nous regardent comme des gens un peu fêlés. Les autres nous regardent peut-être comme des gens qui ratent leur vie, ne comprennent pas qu'au lieu d'aller en rando ce matin, soyez là. Ne comprennent pas ça. Ce n'est pas facile de l'expliquer d'ailleurs. Hein. Mon fils il joue au tennis, il voulait la compétition. Il en était, je pense, capable. Mais les compétitions sont souvent le dimanche. Alors j'espère qu'un jour il me pardonnera. Mais c'est comme ça. Et Jésus nous regarde, il nous aime, et il aime ceux qui sont humbles de cœur. Humbles de cœur. C'est encourageant de savoir que Jésus n'a pas choisi des héros de son temps. Il a choisi d'une certaine façon les zéros. Et il leur propose un chemin de zéro à héros. De zéro à héros. Alors ça ne flatte pas notre ego, parce que quand même, moi, je n'aime pas qu'on me perçoive comme un zéro. Mais si il veut faire de moi, dans sa maison, quelqu'un qui était zéro et qui devient un héros, non pas en prenant la première place, mais un héros parce que dans un monde où tout le rejette, Dans un monde où tout le rejette, qui est dans le conformisme? Ce n'est pas le chrétien. Pendant longtemps, on a critiqué les chrétiens d'être conformistes. C'était à la mode d'être anticonformiste. Ça paraissait une liberté. Mais aujourd'hui, les chrétiens suivent le Christ, ce n'est pas le modèle dominant. Nous sommes une minorité. C'est aller à contre-courant que de devenir disciple du Christ. Et nous sommes héroïques par sa grâce de décider de le suivre encore en 2024. Amen. On peut s'applaudir, hein, chacun qui a pris cette décision. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Devenir disciple de Jésus, c'est entrer dans une communauté avec le Christ d'abord. Et Bonhoeffer nous le rappelait. Être en Christ, c'est être en communauté, en communion avec le Christ. Fred, j'ai placé Bonhoeffer, tu vas être content ce matin. La communauté chrétienne, communauté en Christ. Et pour devenir chrétien, il n'y a pas un livre d'initiation caché. Pour devenir disciple de Jésus, c'est d'une certaine façon accessible simplement à tous. Il suffit d'accepter de faire humblement un détour, que l'Écriture appelle la conversion. Il suffit de faire un détour, de s'éloigner de sa voie propre, de s'éloigner de cette nature propre qui nous enferme dans nos malheurs, dans nos captivités de péché et toutes sortes de choses qui nous déshumanisent, pour entrer en communion avec le Christ et devenir disciple du Christ. Ça veut dire marcher à la suite de Jésus-Christ. Quels que soient ces hommes et ces femmes de l'époque de Jésus, quel que soit le mépris que leur a opposé la société de leur temps, Jésus avait vu en eux une détermination. Oh, que j'aimerais qu'ils voient dans ton cœur et dans mon cœur ce matin. Qu'est-ce qui les a caractérisés, ces hommes et ces femmes? Qu'est-ce qui les a caractérisés? C'est que chacun, pour entrer dans cette communauté, a dû laisser quelque chose derrière lui. Si je suis ici, ce n'est pas parce que j'ai raté ma vie. Ce n'est pas parce que j'ai rien trouvé mieux à faire de ma vie. C'est parce que l'appel du Christ m'a appelé à laisser autre chose derrière moi. Et à regarder et à considérer ce que je laissais, aussi joli que c'était, aussi beau et valorisant que c'était, comme dorénavant la boue pour le peuple de Dieu, pour l'Église du Christ. Et ce n'est pas réservé qu'aux pasteurs. Nous tous, c'est à notre portée. Peut-être vous avez dû renoncer à un rêve parce que vous êtes devenu chrétien. Parce que ce chemin n'était pas le vôtre et que le Christ vous a révélé le vôtre. Et peut-être que c'est le travail que vous faites aujourd'hui. Et peut-être que ce n'est pas la joie chaque jour. Mais vous avez la pensée que Dieu vous a mis à votre place. Et ça, c'est important. Et ça, ça peut changer tout. Et si jamais vous n'avez eu cette pensée, demandez au Seigneur de venir vous confirmer ou alors de venir vous donner le courage de laisser les vieux filets et d'entrer enfin dans ce qu'il a prévu pour vous. Je me demande toujours comment papa Zébédé a ressenti ça. Parce que quand mon père a su que je n'allais pas me présenter au concours des officiers, il a été meurtri. Parce que toute mon histoire était la guérison d'une injustice qu'il avait subie. Il fallait que moi j'aille plus loin. Lui, il avait dû gagner galon après galon puisqu'il était entré sous-officier. Il a dû subir des injustices, des recalements en 13 ans avec le grade de maréchal de logis-chef avant de monter. Et moi, je pouvais rentrer officier. Tout était prêt. Et le Christ m'a brisé. Pas parce que c'est mauvais d'être officier. Parce que ce n'était pas mon appel. J'ai pleuré. Il a pleuré, mon père. Mais il m'a béni. Je me souviens quand on allait à la banque, Société Générale des Banques du Cameroun, et qu'il a pris ce crédit, équivalent de presque 8000 euros. Pour un Africain, c'est énorme. Quand on a une dizaine d'enfants, et qu'il a viré ça à l'Institut biblique de nos gens, et qu'il m'a dit, maintenant mon fils, le Seigneur pourvoira pour les autres années. Et ce qui est au congrès, et je suis ému quand j'en parle, savent que la première église qui m'a soutenu, l'église baptiste de l'affaire, n'était que 24. Et ce sont eux qui ont payé toutes les autres années mes études. Et c'est d'une certaine façon eux qui m'ont retenu en France. Et je suis ému parce qu'aujourd'hui, dans le cadre du congrès, on a acté la vente du presbytère, la vente du temple, la vente de l'appartement. Mais ce qui me console, c'est que c'est une autre assemblée qui reprend le relais. Et là, vous ne le savez pas, c'est jouer une bonne partie de l'histoire du baptisme français. Là, dans la petite ville d'Aile de la Fère, il y a un certain Jean-Baptiste chrétien qui est enterré. Un homme qui a évangélisé tout le nord de la France. Et il y a encore des églises qui vivent ce ministère. C'est les saisons de la vie et les saisons de l'église. Voyez, mais le Seigneur nous appelle à un ministère de joie et un ministère heureux, un ministère de bonheur. Alors, mes amis, devenir disciple du Christ, c'est faire communauté avec lui, mais c'est aussi recevoir l'enseignement de Jésus comme la porte, je l'ai déjà dit, qui nous donne accès au bonheur du royaume. Samuel Benetro, je le cite rapidement, le temps nous manque, nous dit « Les béatitudes ont une portée universelle. Les non-croyants qui leur prêtent attention sont avertis que de graves illusions les guettent, qu'il y a des bonheurs superficiels, éphémères et décevants. On croit souvent que les chrétiens cherchent un bonheur illusoire. On croit que c'est l'option facile d'être chrétien. Non, c'est le contraire. Être chrétien, ce n'est pas l'option de facilité. Parce que ça change ta vie. Parce que ça peut changer tes rêves. Parce que ça te demande beaucoup plus. Parce que la barre n'est pas placée à minima. Dieu nous aime d'un amour exigeant. Il ne demande rien de moins que nous, dans la totalité de notre être et dans la totalité de notre vie. Il ne veut pas être seulement seigneur d'une portion de notre vie. Il est seigneur de tout ou il est seigneur de rien de tout, de rien du tout, comme disait John Stott. Si Dieu n'est pas seigneur de toute ma vie, alors il n'est plus seigneur de rien du tout. Pensez à ça, pensons à ça. Je m'inclus. Alors notre monde nous propose des satisfactions immédiates qui appellent d'autres satisfactions. L'actualité récente nous fait part de cet artiste jeune, Kendji Girac, qui malgré tout le succès qu'il a eu, qui malgré tout l'aura, qui a chanté aussi des cantiques, on l'a vu dans les aéroports, avec le nom de Jésus, dans cette communauté tzigane où le nom de Jésus est proclamé, mais qui a été submergé par peut-être un chagrin amoureux ou affectif, on n'en sait pas, on dit plein de choses, mais qui allait au point de tourner une arme contre lui. L'actualité nous parle d'un pays comme la France où le taux de suicide de nos jeunes est en train d'exploser. Et le taux de suicide de manière générale, les personnes âgées face à l'isolement est en train d'exploser. Et en même temps, au lieu de répondre à ce problème, nous sommes en train de construire une loi pour aider à mourir. Comme si les gens ne savaient pas ce qu'ils avaient à faire. Comme si ce n'était pas déjà assez douloureux comme ça. Que nos jeunes, nos enfants se retournent des armes contre eux. J'ai porté le seul vœu qui a été validé au congrès de la Fédération Baptiste cette année est un vœu porté à l'initiative de Nîmes. En notre nom, j'ai demandé au congrès de rappeler à nos autorités l'attachement de tous les membres de nos églises à l'accompagnement de la vie jusqu'à la mort. Réitéré. Eh oui, il a été voté. C'est le seul vœu de cette année. Et il a été voté. Réitéré que ce dont le pays a besoin, c'est une culture. Une culture des soins palliatifs. Un financement à la hauteur, pas 1 milliard pour 10 ans. Un financement à la hauteur, des recherches soutenues et un maillage territorial qui permette à tous, chrétiens ou non chrétiens, à tous les citoyens, d'avoir un accès égal sur tout le territoire à la prise en charge des souffrances liées à la fin de vie. Et il y a encore tant de choses dans la loi Leonetti-Claes 2, directive anticipée, sédation et tant d'autres choses qui n'ont même pas encore été déployées que déjà on voit arriver une loi et une menace sur l'option de conscience pour nos frères et sœurs médecins, infirmiers, infirmières, etc. Et qu'est-ce qu'on va encore nous pondre après la constitutionnalisation, l'inscription dans la constitution de l'IVG? Il est où le bonheur? Et nous voulons courir après ce bonheur illusoire? Et nous voulons courir après cette liberté illusoire? Pourquoi tu te lèves chaque matin, consacres toute ton énergie, paye tes impôts? Est-ce que le Christ n'en vaut pas plus? Je ne te dis pas d'abandonner ton travail. Ce n'est pas mon propos, ce n'est pas mon sous-texte. Mais je dis que tu dois être fier en tant que chrétien d'être au service d'un roi dont la perspective du royaume est bien meilleure que celle qu'on nous propose aujourd'hui. Tu n'as pas à avoir honte d'être chrétien. Tu n'as pas à raser les murs. Tu n'as pas à te taire quand tu prends le café avec tes collègues. Tu dois être fier d'être chrétien et de dire que tu crois en la vie et que tu crois à la solidarité envers les personnes les plus vulnérables et que tu crois que quand une société ne peut plus assurer aux personnes les plus vulnérables qu'on ne les poussera pas à faire le dernier saut, alors son niveau de civilisation peut être questionné. Amen. Je voudrais terminer avec un focus sur ce bonheur paradoxal. Le bonheur qui nous est proposé, mes amis, par le Christ, n'est pas un bonheur facile. Je n'ai pas choisi de commenter chaque Makairos heureux, heureux. Parce que ça, je vois que vous avez une tonne de prédications qui ont commenté, décliné. Et je pense qu'il y a encore sur notre site, dans les anciennes prédications, des prédications sur ce sujet. Je voudrais juste terminer. On va afficher quelques items. On va les afficher complètement. Merci. Jusqu'ici. Je vais les commenter en deux phrases à chaque fois. Le bonheur que le Christ nous propose ici, c'est comme un décret dans une constitution, c'est comme le préambule. Il n'est pas en train de nous dire que c'est un bonheur où vous allez le produire à la force de votre poignet, où vous allez suer pour être heureux. Non, il est en train de nous dire d'abord, je le promulgue comme un roi. Le royaume de Dieu avec moi s'est approché. Et je vous dis que c'est un règne qui va vous faire connaître le bonheur. Quelle que soit votre situation actuelle, quel que soit ce que vous ressentez ou ne ressentez pas, le royaume de Dieu s'est approché avec le Christ. Et c'est un règne de bonheur et de paix. Il le promulgue. Soit on est choqué, outré, parce qu'on est, que dans sa réalité, dans sa situation, en disant c'est bien gentil, mais en attendant, me voici avec mon malheur. C'est bien gentil, mais qu'est-ce que tu me proposes? Soit alors, on s'arrête et on dit, est-ce que ça vaut le coup? Et on accueille. Et la communauté du royaume, c'est celles et ceux qui accueillent ça, qui disent Amen, qui comprennent qu'en Jésus-Christ, il est le oui de Dieu, que toutes les promesses de Dieu en lui se réalisent, il est le oui et le Amen de Dieu. Un bonheur promulgué, dit Bénétro. Un bonheur qu'on manque dans notre société où on nous propose de tout remplir, d'avoir toutes les satisfactions tout de suite, où on ne supporte plus la frustration, où on a un problème lié au manque. Et plus on a le plaisir, et plus on cherche le suivant, et plus, on remplit. Toutes les situations de ces béatitudes, heureux, 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 concernent des manques. Ceux qui pleurent, ils pleurent parce qu'ils sont confrontés à une perte significative, quelle que soit la nature de cette perte. Peut-être un être leur manque. Et dirait Lamartine, c'est tout le monde qui est dépeuplé. Quel est ton manque? Ceux qui ont faim et soif de justice et de paix, peut-être espèrent et attendent ce royaume de la paix, cette instauration. N'avons-nous pas soif et faim qu'enfin cessent les armes? N'est-ce pas le cri de notre cœur quand on voit ce qui se passe dans le monde? Ceux qui sont humbles de cœur passent dans une société des forts, comme des losers, comme des faibles. Ceux qui manquent confiance en eux, les doux de cœur, humbles. Ceux qui n'ont pas une haute opinion d'eux-mêmes. Les doux comme Jésus, on les ferait passer aujourd'hui dans notre société pour des gentils, pour des faibles. Parce que le paradigme dominant serait que pour s'élever dans sa carrière ou pour avoir la place, il faut marcher sur la tête des autres. Alors on pourrait dire à Jésus, mais en quoi ces situations riment avec bonheur? Et c'est là que le bonheur que le Christ nous propose, non seulement est paradoxal, mais il est subversif. Il nous surprend. Il renverse notre vision du bonheur. Il nous dit que le bonheur intègre le manque. Le manque n'est pas opposé au bonheur. Il nous dit que même dans une situation où il me manque quelque chose, je peux connaître déjà le bonheur. Le bonheur comme conversion, comme don, pardon. Et comme futur anticipé. Je l'ai rappelé, ce bonheur n'est pas une conquête personnelle, c'est une grâce. C'est d'une même nature que la paix que le monde ne peut pas nous donner, que le Christ nous donne, c'est une grâce. Et ce bonheur nous propose de lever les yeux vers un futur qui est anticipé aujourd'hui. Ils recevront un héritage. Tu as un héritage. Et tu peux déjà entrer dans ton héritage par la foi maintenant et trouver dans la communauté du Christ et dans la communauté des disciples du Christ la force anticipée, cet héritage qui est pour toi. Un héritage de bonheur et non de malheur, si je paraphrasais Jérémie, pour te donner un avenir et de l'espérance. Le bonheur, également, comme engagement. La communauté des disciples, je l'ai déjà dit, ce n'était pas des fêlemas. Ce n'est pas comme si Jésus prenait n'importe qui. Non, Jésus a pris, appelé n'importe qui, mais il a dit qu'il marcherait avec ceux-là qui, quand ils mettent la main à la charrue, ne regardent plus en arrière. Parce que son appel est exigeant. Et ce matin, Jésus te parle de l'engagement. À quel point veux-tu t'engager? À quel point veux-tu quitter certaines fausses sécurités? À quel point veux-tu me donner la priorité? Jésus a eu des paroles qui passeraient mal pour notre temps. La Miviludes serait appelée tout de suite. On lui dirait ce prédicateur dangereux. Miviludes, ses missions de vigilance, de lutte contre les dérives sectaires. Et c'est un travail important qu'ils font. Mais ils seraient appelés tout de suite parce qu'ils donneraient là un signal un peu inquiétant. Lorsqu'il dit, si tu n'es pas prêt à abandonner ton père et ta mère pour me suivre, tu n'es pas digne de moi. Mais ce n'est pas qu'il fait la promotion des ruptures familiales, mais il veut dire le niveau de l'engagement relationnel et le niveau de l'implication et de la détermination qu'il faut pour le suivre. Le bonheur qu'on partage, ce n'est pas vivons cachés pour vivre heureux. Le bonheur qu'on partage, comme nous allons partager le pain, comme nous partageons la fraternité, comme nous partageons les promesses de Dieu. Ce n'est pas un bonheur chiche, c'est un bonheur généreux qui ressemble au Père. Le bonheur comme regard fixé sur le Maître. Il nous appelle, il dit, regardez, je suis doux et humble de cœur. En fait, tout ce que Jésus a dit ici, dans les heureux, heureux, on peut se l'appliquer à Jésus directement. Il est celui qui a incarné chacune de ses affirmations. Et il a été persécuté lui aussi, et injustement, jusqu'à la mort et l'agonie sur la croix. Enfin, les amis, je voudrais replacer juste ce cri comme dernière slide qui nous fera voir le bonheur. J'aimerais qu'on prenne quelques secondes et c'est la conclusion ici. J'ai souligné les mots calme et confiance. Ça vous rappelle un autre passage, hein, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Et la réponse, vous avez vu la réponse, ce n'est pas en nous. La réponse nous demande de faire en quelque sorte une exode, une sortie de nous-mêmes pour regarder. On n'a pas tout pour avoir la plénitude de nos vies par nous-mêmes. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. C'est notre prière ce matin. Que quand vous rentriez du centre Martin Luther King le dimanche ou en semaine ou en venant, qu'on se dise, mais on ne comprend pas. Ces personnes partent toujours contents. Je me rappelle ce témoignage de notre sœur Marie Orcel. Personne qui passe prendre le café là et tout. Et personne qui avait le visage toujours attristé, avait un problème. Et un jour, la grand-mère de Marie lui dit, viens prendre le café. Et sa vie a changé. Que si vous êtes venu ce matin, la tête baissée, le poids de vos soucis, qu'en rentrant peut-être ce matin, que votre mari, qu'un proche, qu'un voisin dit, mais ce n'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Dieu veut faire briller sur toi sa lumière sur ton visage, sur mon visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Est-ce que vous voulez être le reflet du visage de Dieu? Un visage ouvert à la vie. Un visage qui dit, oui, Seigneur, je choisis la vie avec toi encore. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes les vendanges et toutes leurs vendanges et leurs moissons. Dieu te donne la joie d'aujourd'hui. Celle de demain, il te la donnera, mais aujourd'hui, il te dit qu'il met dans ton cœur plus de joie que celle des vendanges. Les vendanges et les moissons, c'est beaucoup de travail aussi. Hein. C'est-à-dire que Dieu ne te donne pas sa joie en fonction de ton mérite, de ton labeur. Il te la donne comme une grâce. Est-ce que tu veux recevoir la joie dans ton cœur comme une grâce de Dieu? La joie d'aujourd'hui. Demain prendra soin de lui-même. Aujourd'hui est un jour de joie pour toi, mon frère, ma sœur. Dans la paix, moi aussi je me couche et je dors. Ce soir, lis le psaume 4 et relis ces versets. Dans la paix, Moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul, dans la confiance. Alors que le Seigneur applique ses paroles par son Esprit Saint en notre cœur. Amen. Avant que nous partagions le pain et le vin, je vais donner la parole à ceux qui étaient au congrès avec nous, Christophe et Magali, ainsi que Cyrielle, qui vont nous partager courtement un témoignage. Et je relaisse la parole à Fredou, qui va présider au partage du pain et du vin. Venez les amis. Alors, on commence par notre jeune sœur, Cyrielle.
Bonjour à tous. Que dire ? Ben, merci Paul pour ce message d'espérance qui nous rappelle que le bonheur, c'est quelque chose auquel on peut avoir accès dès aujourd'hui et pas juste pour demain. J'ai participé au congrès de la Fédération Baptiste 2024, du coup, en tant que déléguée de la jeunesse. Et ce message de ce matin, ce message d'espérance, il est important pour notre jeunesse. Un des axes stratégiques de la Fédération Baptiste, c'est de favoriser l'émergence de leaders au sein de la jeunesse. Et ça s'est concrétisé pendant ce congrès. J'ai eu l'occasion de discuter avec des responsables et des membres du comité de l'enfance et de la jeunesse qui met en place des événements que vous connaissez peut-être, auxquels on a déjà participé en tant que groupe de jeunes adultes comme Connexion, qui est un week-end qui se déroule au mois d'octobre avec environ 500 jeunes de 15 à 22 ans qui participent à un lieu spécial en France, au cours duquel il y a des partages. On a eu les témoignages de conversion qui ont lieu suite à ce type d'événement. Ce qui est important de retenir aussi, c'est qu'on a eu du coup la présentation du nouveau directeur du comité enfance et jeunesse, un poste qui n'existait pas jusqu'alors et qui nous montre bien que la fédération porte un intérêt particulier à notre jeunesse, que c'est important qu'on le garde à l'esprit. On fait face à une réalité aujourd'hui qui est que le corps pastoral vieillit. Et une des choses importantes aussi, c'est l'accompagnement des responsables de jeunes, des responsables d'ados, dans la formation et l'enseignement au ministère pastoral, mais pas que. Et dans ce cadre-là, toujours la fédération, avec l'aide du comité d'enfance jeunesse, des délégués du coup de la jeunesse qui interviennent dans le cadre du congrès, réfléchissent à la mise en place d'outils de formation. Donc, pour vous donner un exemple, en août de cette année, fin août, à partir du 26 août, il y aura une semaine de formation proposé par l'Institut public de Nogent, qui accueille les responsables d'ados, les responsables jeunes et jeunes adultes qui souhaiteraient se former davantage pour une semaine avec des enseignements du coup théologiques, des enseignements à l'animation, à l'accompagnement à tout ce qui est questionnement de la jeunesse face aux problématiques de notre société, donc tout ce qui est abus, questionnement sur l'identité, tout ça. Donc voilà, un congrès riche qui m'a permis, moi, de prendre davantage conscience de l'implication qu'on peut avoir en tant que jeune, en tant que responsable, de l'importance aussi de cette implication et qu'on soit encouragé de la manière dont on peut être acteur dans l'engagement de nos jeunes dès aujourd'hui et pour demain. Voilà.
Bonjour à tous. Donc nous y étions aussi. Il marche le micro là ? Ouais. Nous y étions aussi pour la première fois avec Magali. Donc il y avait Cyril, Paul et Norbert qui doit se reposer, je crois, parce qu'il était bien fatigué. Et donc, moi, je savais évidemment qu'on faisait partie de la Fédé des Baptistes, mais c'est la première fois que j'y allais. Et c'est la première fois que j'ai pu toucher du doigt comment ça se passait, comment fonctionnait notre fédération, ces rencontres-là. Et à un moment, il y a un des intervenants qui a parlé, qui a fait, ils ont fait une table ronde et il y avait un topo entre. C'est quoi l'église locale, c'est quoi l'église universelle. Et puis c'était intéressant parce qu'ils ont parlé que chaque église locale était l'église et que quand on se réunissait en congrès, comme ça, notre fédération était aussi une modalité de l'église. Et en effet, moi j'ai réalisé que c'était pas juste. On n'est pas juste dans une fédération pour être dans une institution, pour nous protéger par rapport, pour avoir des rapports avec le CNEF et le ministère de l'Intérieur. Ça existe, c'est vrai. Mais c'est plus que ça, il y avait vraiment une vie riche, rencontre avec d'autres gens, on voyait des propositions qui ont été faites, donc, comme parlait Paul ce matin, on a vu, Magali va en parler, une intervenante, une pasteur qui a donné 3 messages enrichissants spirituellement. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé, et puis il y a des choses qui m'ont fait penser un peu aux âgés, chacun pouvait participer, il y a eu des endroits où on votait chacun personnellement, d'autres où il y avait des propositions qui étaient faites. Enfin voilà, moi j'ai vraiment trouvé ça très riche. Et j'ai beaucoup apprécié ce moment et de parler avec des frères et sœurs de partout et de voir que c'était pas juste une institution, c'est un organisme vivant, quoi. Ça m'a vraiment parlé et je suis content. Voilà.
Oui, voilà. Ce qui était intéressant, c'était de voir qu'on n'était pas seul dans notre coin et qu'en fait, la Fédé, c'est un socle commun, c'est indéboulonnable, il y a un socle commun. Et puis après, il y a une diversité d'églises, il y a une diversité de personnes, de pensées, de façons de voir les choses. Et moi, j'ai trouvé extrêmement riche parce que ça écarte un peu notre façon de vivre, de voir comment on vit l'église, en se disant que dans une même fédé, ben, en fait, il y a des églises qui peuvent aussi penser différemment. Voilà, et que tout ça sur un socle commun. Donc ça élargissait un peu le regard. On a eu une oratrice qui s'appelle Gemma Taboyan, qui est pasteur à l'église libre de Valence, qui nous a fait une intervention qui était très riche sur 3 points, et qui était sur notre identité en Christ, notre identité communautaire et notre identité missionnaire. Et la première partie sur l'identité en Christ, je l'ai trouvée très enrichissante et très touchante, puisqu'elle nous a parlé de l'image, en fait, de ce qui pouvait construire notre identité et qui sont liés au retour qu'on a des autres. Donc, un jour, ça peut être bien, puis le lendemain, on est la pète à abattre, ça peut être compliqué, parce qu'on est soumis aux compliments, aux critiques, parce qu'on est touché par tout ça. Et elle nous soulignait que, tout au long du ministère de Jésus, la question de qui est-il, mais qui est-il, l'a poursuivie, en fait, tout au long de son ministère. Et mais que Jésus, lui, savait qui il était. Voilà. Et qu'il pouvait assumer sa mission, il pouvait marcher dans son identité parce qu'il savait qui il était. Voilà. Et que nous pouvons choisir le Dieu créateur comme seule mesure de nous dire qui nous sommes. Voilà. La deuxième partie, c'était la partie communautaire, c'est-à-dire en tant que personne individuelle, eh bien, on fait partie d'une communauté, que l'Église, elle est voulue de Jésus, elle a été créée, et que cette église locale, elle est importante. Et ensuite, hop là, non, je suis sur toi, c'est parti. Voilà, et que la troisième partie, c'était, nous sommes en mission, et que cette mission, elle se décline à chaque instant, à chaque jour, à chaque étape, à chaque pas. Et que souvent dans la Bible, il était noté en allant, Jésus en allant. Voilà, et que cette mission, elle s'inscrivait dans un mouvement et dans une étape du chaque jour. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Merci.